mais à un thème qui est parallèle. Je lui donne tout de suite la parole.
Si, monsieur le recteur, nous revenons au point de départ, en somme, avec beaucoup moins de talent que le père Blais, c'est-à-dire que je vais revenir un peu au livre de... nous n'avons pas coordonné nos efforts, mais je crois que ce n'est pas trop grave, au livre de Roland Mounier sur l'assassinat d'Henri IV, paru en 1964. Pourquoi est-ce que j'ai pris comme sujet Henri IV et ses assassins? C'est parce que, pour trois raisons différentes. Je pourrais dire, évidemment, que c'est parce qu'après tout, Henri IV a été... sacré, un peu prématurément, mais tout de même, en février 1594, et que c'est donc un quadricentenaire, comme on a la rage de célébrer les centenaires bitri, etc. J'ai pris ce sujet. Ça pourrait être, mais c'est aussi et surtout, d'abord parce que j'ai, au cours des innombrables séminaires auxquels j'ai participé chez Roland Mounier, il en a été question très souvent, et c'est une façon de lui rendre hommage. Et je dois dire que dans les années 62-63, l'actualité et mes convictions ont fait que je me suis intéressé au tyrannicide. C'était d'une actualité brûlante ici, et je me suis intéressé, c'est vrai, au tyrannicide. J'ai écrit un article sur Ravaillac, et cet article avec les retards universitaires est paru en même temps que le livre de Roland Mounier. Minuscule petite chose à côté de la somme de Roland Mounier, et je suis allé le voir, nous en avons parlé, puis je suis allé à son séminaire. Il m'a d'ailleurs, à l'occasion, je vous le dis tout de suite, et cela déflore un peu mon sujet, traité de ligueur, qualificatif que je ne rejette pas, et qu'il va d'ailleurs appliquer en d'autres circonstances après. J'en profite, je reprends aussi ce sujet, parce que je veux rendre hommage à la mémoire de mon ami Guy Auger, qui est mort le 9 janvier, avec qui, et pour exactement les mêmes raisons, nous en avons beaucoup parlé en 1962. Sur le fond, il partageait pleinement mon opinion. C'est à propos de Ravaillac, simplement, que nous avions quelques divisions, mais sur l'actualité, il était tout à fait d'accord. Car c'est une constante de sa pensée d'avoir été fidèle à notre empire. Je vais donc parler d'Henri IV et de ses assassins. Je serai long et ennuyeux, et je vous en demande pardon d'avance. Le 14 mai 1610, Henri IV est assassiné. Et s'il faut en croire une très large partie de l'historiographie, son assassin, François Ravaillac, était un demi-fou qui, en pleine paix, a arraché un roi populaire à l'affection de ses sujets. Il est évident que les difficultés de la régence de Marie de Médicis, puis l'austérité du gouvernement de Louis XIII et de Richelieu, ont très souvent conduit les Français de la première moitié du XVIIe siècle à regretter Henri IV, le roi des braves. Mais c'est tout de même surtout la littérature qui a brossé très tôt d'Henri IV un portrait de plus en plus attachant. Finalement, plus on s'est écarté du règne, plus il a été extraordinaire. Sully, écarté du pouvoir en 1610, consacre ses loisirs à rédiger ses mémoires. Et il n'a pas pu résister à la tentation d'idéaliser le temps où il était au pouvoir et à critiquer du même mouvement les gouvernements qui se privaient de sa contribution. Sully est mort en 1642, vous vous rendez compte, ça a fait 32 ans de cet exercice. Et puis, on a imprimé d'innombrables panégyriques d'Henri IV dans les années qui ont suivi. Beaucoup de religieux l'ont fait sur ordre de Louis XIII, parce que Louis XIII voulait faire vénérer la mémoire de son père. On a rédigé des poèmes, la Henriade. Et puis, Claude Billard écrit la tragédie d'Henri le Grand. Surtout, sous le règne de Louis XIV, Mgr Ardouin de Péréfix, ancien précepteur du roi, publie en 1661 une histoire d'Henri le Grand. Une histoire d'Henri le Grand qui n'apporte pas beaucoup de faits nouveaux, ce n'est pas des découvertes à sensation, mais elle exalte la figure du roi et elle le présente comme un modèle. Et le livre a un immense succès. Il a été édité d'innombrables fois, et la dernière en 1853. Et puis Péréfix a ajouté un appendice qui est extrêmement intéressant, parce que ce Péréfixe fournit la base de la légende d'Henri IV. Vous avez trois anecdotes significatives dans Péréfixe, appendice. Ralliez-vous à Montpanache Blanc, d'abord. La fameuse histoire de Ralliez-vous à Montpanache Blanc, c'est une trouvaille de Péréfixe. C'est une trouvaille qui a eu la vie longue, mais en fait, il faut bien savoir que ça n'avait rien d'original de dire qu'il fallait se rallier à son panache blanc quand on commandait une troupe, puisque le panache blanc était l'insigne du commandement, l'écharpe blanche était l'insigne du commandement pour les officiers. On a fait de ce panache toute une affaire, et Michelet, naturellement, en a rajouté, il en a raté assez peu dans sa vie. Comme dit François Bluche, c'est un historien, un excellent historien jusqu'à Jeanne d'Arc. L'ennui est qu'il a surtout beaucoup écrit après. Et Michelet a fait des dithyrambes sur le panache, qui est devenu une espèce d'énorme chou, à en croire Michelet, ce qui devait rendre les exercices équestres d'Henri IV difficiles. Bien, Chateaubriand aussi, mais enfin, ça ne nous étonne qu'à moitié. Autre image d'Épinal, l'histoire des vivres que généreusement Henri IV laisse passer pendant qu'il assiège Paris. Ce qui est tout à fait vrai, il a laissé passer des vivres aux Parisiens. Seulement la vérité, tout de même un petit peu plus nuancée, c'est que les soldats d'Henri IV ont vendu des vivres aux Parisiens. Et les Parisiens franchissaient les murs, achetaient les vivres à prix fort, et Henri IV laissait faire parce qu'il payait mal ses troupes. Donc tout le monde s'y retrouvait, et on n'insistait pas davantage sur cet incident. Péréfix a repris l'affaire, et il est évident que ça a été pour la plus grande gloire d'Henri IV. Et puis il y a l'histoire de la poule au pot, sur laquelle je n'insiste pas, qui est exactement de la même origine. Voltaire s'en est emparé, il a rapporté le mot à n'en plus finir. En fait, il est probable que ce mot n'était d'ailleurs pas de lui, mais ça n'a pas d'importance. Voltaire s'en est emparé et il a naturellement complété la légende à cet égard. Le XVIIIe siècle, surtout, a donné d'Henri IV une image légendaire. Jusque-là, on voulait idéaliser le passé, c'était spontané. Mais au XVIIIe, la chose change. On transforme l'histoire et on transforme le personnage d'Henri IV en mythe. C'est-à-dire en un ensemble d'idées, d'images motrices, en un ensemble d'images capables d'évoquer en bloc, par la seule intuition, tous les sentiments correspondant à une action projetée. Comme l'a dit Georges Sorel. Le XVIIIe siècle a pour caractère essentiel d'être irreligieux, mais ses auteurs mènent un combat contre le catholicisme en affichant la tolérance, et dans d'autres cas d'ailleurs, en affichant une espèce d'aimable scepticisme. Voltaire parle d'écraser l'infâme. Or l'infâme, c'est l'Église catholique dans la mesure où elle convertit, et ça lui arrivait à l'époque. Pour atteindre son but, Voltaire va donc forger une légende d'Henri IV, sympathique sous tout rapport. Il est encouragé par l'esprit du siècle, qui est extrêmement indulgent sur le chapitre des mœurs, et il va utiliser cet aspect de la riche activité d'Henri IV. Tout le chant neuf de la Henriade, par exemple, est consacré aux amours d'Henri IV. C'est une idée étrange, parce qu'il faut bien reconnaître que quand on y regarde d'un peu plus près, par égarement, on constate que ces amours d'Henri IV ne sont ni très raffinés ni très exaltants. Il y a un éventail de personnages qui n'est vraiment pas fréquentable tous les jours. Un autre mot colporté par Voltaire alors est significatif, mais il est idiot. C'est Paris vaut bien une messe. Henri IV ne l'a jamais dit. Heureusement pour lui, parce que ça aurait été extrêmement inquiétant pour son conscient intellectuel, évidemment. Il est probable que le mot a été prononcé de Sully, par Sully. À propos de l'édit de Nantes, Voltaire fait d'Henri IV le fondateur de la liberté de conscience. C'est la religion dont le zèle inhumain met tous les Français les armes à la main, lorsqu'il parle du catholicisme. Je ne décide point entre Genève et Rome, de quelque nom divin que leur parti les nomme, j'ai vu des deux côtés le fourbe et la fureur. La fourbe et la fureur. En fait, Voltaire a choisi. Il a choisi évidemment d'attaquer Rome. Rome qui, sans soldats, porte en tous les lieux la guerre. Il a choisi d'attaquer Rome, et il faut dire que la Henriade l'a vraiment aidé. La Henriade a déchaîné un enthousiasme durable, puisque la Henriade a été rééditée jusqu'au XIXe siècle. Et on est persuadé que la Henriade, c'est vraiment l'épopée nationale. La chanson de Roland n'est que Flatus Vocis, Baliverne, petite chose, à côté de cette grande et belle chose qu'est la Henriade. Et pendant un siècle et demi, on va faire expliquer aux enfants, les malheureux, des passages de la Henriade. Bien sûr, il y a d'innombrables traductions, jusqu'en russe. C'est vrai que ça. Bon. L'importance de l'ouvrage est donc incalculable, même si au point de vue de la littérature, il est médiocre, et je ne pense pas que mes éminents collègues professeurs de lettres ici pourront dire autre chose. Vous avez également, au XVIIIe siècle, une œuvre théâtrale, sans beaucoup d'idéologie, qui a contribué à l'élaboration de cette, à l'érection de cette statue, c'est François Collé. François Collé, la partie de chasse d'Henri IV. Vous voyez, toute l'idée, c'est de faire d'Henri IV un personnage hors du commun, parfaitement légendaire. On fait de ce roi quelqu'un d'extraordinaire. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce roi n'est pas vraiment catholique et il n'est pas vraiment protestant. C'est un roi bien sympathique. Il est déiste. Il est déiste, il croit en Dieu. Il croit en Dieu, mais selon la légende, bien sûr, un Dieu, il y croit détaché des confessions religieuses. Il est déiste. Après tout, les déistes croient une étincelle première. Bien. On met l'accent sur les faiblesses d'Henri IV, mais ce sont des faiblesses qui sont tellement attachantes. Il est certain que le mythe d'Henri IV, roi bon et tolérant, a beaucoup compté pour le triomphe des idées des philosophes. Il a beaucoup compté. Henri IV, c'est finalement, à travers cette littérature, la préfiguration du roi idéal selon Voltaire. Pourtant, un regard porté sur le règne d'Henri IV, présenté comme populaire, un regard porté sur le règne d'Henri IV révèle qu'il a été victime d'une quinzaine de tentatives de meurtre avant le coup de couteau définitif de Ravaillac. Alors, parmi ces tentatives, bien sûr, il y a toute une série de complots qui ont été inspirés à leurs auteurs par des ambitions ou des déceptions personnelles. Biron, la famille d'Entragues, etc. Mais il y a aussi des tentatives qui ont été menées par des assassins qui ne paraissaient pas obéir à des motifs sordides, mais à des raisons philosophiques. D'abord, il y a eu en août 93 Pierre Barrière. Puis, le 27 décembre 94, Jean Châtel, étudiant catholique, qui essaie de poignarder Henri IV dans la chambre de Gabriel Destrée. Il est exécuté quelques jours plus tard. Deux mois après, c'est un avocat d'Angers, Jean Guédon, sieur du Haut-Plessis, qui est arrêté à Chartres. Il avait lui aussi formé le projet de tuer le roi. Il est pendu et il est brûlé en place de grève le 16 février 1596. À la fin de la même année, un Italien était pendu à Meaux pour la même raison. Le mécontentement qui a accueilli la signature de l'édit de Nantes a suscité une autre tentative, celle de Pierre Rouin, chartreux de Nantes. Et puis, en 1599, sont rompus en place de grève Charles Ridicove, dit d'Avennes, et un capucin du couvent de Saint-Mihiel. Ces gens-là ont voulu renouveler sur Henri IV le geste qui avait été commis par Jacques Clément. En 1600, une autre tentative d'un nommé Hiver, puis celle de Piedepore. En 1608, Saint-Germain de Racqueville, mais lui s'avait recouru à des sortilèges. Vous voyez cette suite d'attentats, et je ne parle que des attentats d'inspiration religieuse, naturellement. Cette suite d'attentats doit être prise en considération pour comprendre l'attentat de Ravaillac. Cette suite d'attentats explique celui de Ravaillac qui correspond en quelque sorte à celui de Jean Châtel, commis en 1594 pour des raisons exactement identiques, et c'est pourquoi j'étudierai les deux affaires, Châtel et Ravaillac. Le 27 décembre 1594, Jean Châtel, revenant d'un voyage en Picardie, est entré tout botté dans la chambre de Gabriel d'Estrée en son hôtel du Bouchard. Et dans la cohue, un jeune homme s'approche du roi, il lui porte un coup de couteau qui l'atteint à la lèvre inférieure, car à ce moment-là, le roi se baissait pour répondre au salut de Montigny. Châtel laisse tomber son arme, se sauve, mais il est rattrapé, et il est remis entre les mains du prévôt de l'hôtel, jeté à la prison du fort l'évêque et interrogé. Qui est-il ? C'est un garçon qui a 19 ans, qui est écolier de l'université de Paris. Il a fait ses études au collège de Clermont, chez les jésuites, et il s'est fait désigner le roi. Il avait depuis 8 jours des projets d'assassinat qui étaient très clairs. Il a cru, pourquoi est-ce qu'il a voulu assassiner le roi? Ce n'est pas du tout parce qu'il avait trop bu ou que les plombs avaient sauté, non, pas du tout. C'est tout simplement, si je peux dire, parce qu'il pensait que son geste, dit-il, serait utile à la religion. Ce dernier maître de Jean Châtel est Jean Guéret, un jésuite. Et il l'a vu récemment en compagnie de son père, qui est un marchand drapier. La famille de Jean Châtel, ce sont des gens qui ont pignon sur rue à Paris. Ils appartiennent aux six corps, c'est au corps des drapiers. Et ce sont des gens qui appartiennent à l'aristocratie bourgeoise de Paris. Il a vu Jean Guéret avec Pierre Châtel parce qu'il désespérait de la miséricorde divine à cause d'un certain nombre de péchés énormes dont il serait rendu coupable et qu'il ne pourrait expier que par un acte signalé. Je cite l'interrogatoire. Et l'acte signalé, ça pourrait être de tuer le roi, qui fait tout ce qu'il faut pour se distinguer de la religion. Le 28 décembre 1594, le Parlement, sur requête du procureur général du roi, rend un arrêt qui dessaisit la juridiction compétente, c'est-à-dire la prévôté de l'hôtel, et qui évoque, à lui, le procès criminel intenté à Jean Châtel. Et cet arrêt ordonne que l'accusé soit amené à la conciergerie du palais, que la procédure commencée soit apportée au greffe de la cour pour être continuée. Donc, à la conciergerie, on amène Jean Châtel, Pierre Châtel, sa mère, son père, Denise Hazard, sa mère, et messire Jean Guéret, prêtre jésuite, contre lesquels on a décrété, suivant les preuves résultantes des charges, etc. L'instruction se poursuit donc devant le Parlement. Je vous dis tout de suite qu'il faut se débarrasser d'un certain nombre d'images d'Épinal. L'instruction devant le Parlement, ça ne veut pas dire qu'il y ait une foule immense, comme le montrent les gravures. Non, enfin, il n'y a pas de public. Ça ne veut pas dire qu'on leur enfonce de temps en temps des aiguillons dans l'océan. Non, mais enfin, il n'y a pas de public. Ce n'est pas du tout les images spectaculaires que rapporte l'iconographie du XIXe siècle. Donc, l'instruction se poursuit devant le Parlement. Le coupable est interrogé de nouveau. Il répond toujours de la même façon. Je vous donne une citation. En qui, pourquoi il avait un si pernicieux et abominable dessein, a dit que c'est à cause que le roi n'est point dans le giron de l'Église jusqu'à ce qu'il ait l'approbation du pape et qu'il est permis de tuer le roi suivant la doctrine du père Mariana tirée de l'écriture sainte. Le père Blais vous a parlé de Mariana ce matin, je n'insiste pas sur cette question. En tout cas, son père et sa mère, ainsi que le père Guéret, sont confrontés avec le coupable et ils le reconnaissent. Il affirme ne leur avoir pas communiqué qu'il s'apprêtait à tuer le roi. Et l'instruction est terminée. Le 29 décembre, vous voyez que les choses sont menées rondement. D'ailleurs, en réalité, les choses sont parfaitement réglées, il faut bien le dire, puisqu'il a été pris sur le fait. Le 29 décembre, la cour se réunit, entend une dernière fois Jean Châtel sur la sellette, et puis elle le fait se retirer. Ensuite, elle délibère à la majorité des voix et elle rend son arrêt. Et Châtel est condamné. Condamné à faire une amende honorable devant Notre-Dame, il sera mené en place de grève, il sera tenaillé aux bras et aux cuisses, et sa main droite, qui a tenu le couteau, sera coupée. Le procureur avait évoqué la possibilité de la brûler, mais ça lui est épargné. Enfin, il sera écartelé, et pour qu'aucune trace ne subsiste de son corps, ses restes seront brûlés, et les cendres jetées dans le vent. Programme éminemment réjouissant, mais c'est en réalité la peine habituellement infligée aux parricides. Ça n'a rien d'extraordinaire et ça ne relève pas d'un vice particulier. Le roi est le père des sujets. On a voulu tuer le roi, bon. On applique la peine du parricide. On lui appliquera la question ordinaire et extraordinaire pour connaître les noms de ses complices. La question extraordinaire n'a rien de particulier, ça dépend simplement du faste qui accompagne les exercices auxquels se livre le bourreau. Question ordinaire et extraordinaire, et si on précise la chose, je vous indique tout de même que cela veut dire que la question n'est pas nécessairement appliquée, puisque l'arrêt éprouve le besoin de le préciser. Interdiction est faite à toute personne de prononcer en un lieu public les propos tenus par Jean Châtel. La cour déclare que ces propos sont séditieux, contraires à la parole de Dieu, condamnés comme hérétiques par les saints décrets. La condamnation de Jean Châtel ne l'atteint pas seule, il faut le remarquer, et c'est important pour comprendre les institutions de l'Ancien Régime. Elle ne l'atteint pas seule. Il y a un autre arrêt qui condamne ceux que leur lien de parenté fait considérer comme des complices. Et puis les pères jésuites sont touchés par l'arrêt. Cela est moins régulier. Les jésuites, corrupteurs de la foi, perturbateurs du repos public, dit l'arrêt, devront dans les 3 jours qui suivront la signification de l'arrêt quitter les lieux où ils ont des collèges et dans les 15 jours le royaume. Et de cette façon, aucun esprit malveillant ne propagera plus en France des doctrines aussi pernicieuses. Jean Châtel a été exécuté le jour même en présence de ses parents et avoir subi la question ordinaire et extraordinaire en la salle du questionnaire. Il y a un second jugement rendu le 7 janvier 1595 qui vise l'ancien précepteur de Jean Châtel, Jean Guéret, Pierre Châtel, Denise Hazard, qui sont les parents du condamné, les 2 sœurs de Jean Châtel et son beau-frère, les serviteurs et les servantes de la maison, les curés amis de Châtel, tous ces gens-là étaient détenus à la conciergerie. L'ensemble, vous voyez, de la maison est considéré comme contaminé par la faute du coupable. Guéret est condamné au bannissement du royaume à perpétuité. Pierre Châtel est condamné au bannissement de Paris à perpétuité et du royaume pendant 9 ans et sa maison est rasée. Sa maison ne pourra pas reconstruire à cet emplacement et une pyramide est dressée. La maison, d'ailleurs il y a toujours la trace de la maison de Châtel, c'est la place qui est devant le palais de justice. Et je constate qu'on n'a toujours pas reconstruit. Une pyramide donc a été érigée, cette pyramide sera détruite en 1604 lorsque l'autorisation de revenir dans le royaume sera donnée aux jésuites. Henri IV y mettra une fontaine. Les serviteurs, les sœurs, les autres prisonniers sont relâchés. Ce même jour, le père jésuite Jean Guignard, régent du collège de Clermont, est condamné à être étranglé et pendu en place de grève parce qu'au cours d'une perquisition opérée pendant l'instruction du procès, on a découvert des lettres insultantes pour le roi ou rendant hommage au geste héroïque de Jean Châtel. Ainsi, par l'horreur du supplice et par la publicité qui est donnée au jugement, se trouve respecté un principe capital du droit pénal d'Ancien Régime, il faut bien le constater, c'est l'exemplarité de la peine. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec la télévision. Eh bien oui, ça se fait en Arabie Saoudite, mais en Arabie Saoudite, on ne vous vole plus vos voitures, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien reconnaître que c'est intéressant. D'autre part, tous ceux qui touchent le coupable sont jugés, parce que le lien du sang fait des complices, et si Pierre Châtel n'a pas été condamné à plus de 2000 écus d'amende, c'est parce qu'il a essayé de dissuader son fils quand ce fils lui parlait de ses doutes. Le procureur voulait faire brûler les pièces du procès, en tout cas le cadavre est brûlé, les cendres sont dispersées, la maison est détruite. Les propos de Châtel ne pourront plus être rapportés, ils le pourront quand même parce que tout cela est rapporté dans les mémoires de Condé, mais tout de même, en principe, ils ne peuvent plus. Et ce n'est pas seulement parce que leur sens est blessant pour le roi, mais c'est parce qu'ils sont prononcés par un régicide. Voilà pour le procès de Jean Châtel. Il marque, au fond, le début du règne d'Henri IV. Si on peut, à ce moment-là, parler d'Henri IV, après tout. Qu'en est-il de Ravaillac? Henri IV a été assassiné le 14 mai 1610, vers 3 heures de l'après-midi. Tout de suite, le duc d'Épernon a réuni les gardes sur le pont Neuf et le Parlement est investi. Déjà, le duc d'Épernon avait demandé la régence pour la reine et annoncé aux magistrats qu'il fallait absolument et rapidement s'y résoudre. La reine-mère est donc régente. Elle prend des dispositions afin que l'ordre soit maintenu à Paris et en province. Et il est ordonné qu'on procède à l'instruction de Ravaillac. Le procureur général du roi est un personnage que les historiens modernistes connaissent bien, c'est Jacques de Laguelle, que Roland Mounier avait fait étudier méticuleusement en son séminaire. Jacques de Laguelle, c'est lui qui avait déjà conduit Jacques Clément à Henri III. En effet, il l'avait pris en cheval-stop, si vous voulez. Se rendant à Saint-Cloud, il rencontre Jacques Clément sur la route, il le fait monter en croupe. Jacques Clément lui dit « Merci, mon bon ». Il descend du cheval et il tue Henri III. L'idée n'était pas mauvaise en elle-même, mais il est évident que ça mettait Jacques de Laguelle dans une position très délicate à ce moment-là. Alors Jacques de Laguelle, sur le coup, s'était rattrapé et il avait tué lui-même Jacques Clément. Bon. Là, Laguelle se retrouve en position de juger un autre régicide. Le 14 mai, Ravaillac étant à l'hôtel de Ray, le président Jeannin et un conseiller au Parlement, Bullion, procèdent donc à un premier interrogatoire. C'est une espèce d'interrogatoire d'identité, on sait à partir de là qui est Ravaillac. Ravaillac a 32 ans, il est venu d'Angoulême. Point important, c'est une ville catholique isolée en plein pays protestant. Et il est venu à Paris pour un procès qu'il a gagné depuis longtemps et où il poursuivait la taxation des frais. Il voulait exécuter l'attentat, il ne s'en cache pas. Lorsque Bullion parle devant lui du roi très chrétien, Ravaillac répète ce qualificatif en ricanant. S'il avait été très chrétien, le roi, s'il avait été très chrétien, le roi aurait fait la guerre aux Huguenots au lieu de les protéger en 1610. À l'hôtel de Ray, tout le monde veut venir voir Ravaillac. C'est une curiosité, et d'ailleurs tout le monde peut le faire. Cela, c'est aussi assez curieux quant au déroulement du procès. Les archevêques d'Aix et d'Embrun lui demande quels ont été ses complices et il répond qu'il n'en a pas eu. Il a été chassé d'un monastère de Feuillant à Paris pour des écrits sur les jugements de Dieu. Il ajoute qu'il s'est attaché à partir de là à la contemplation des secrets de la providence éternelle, qu'il a eu de fréquentes révélations, qu'il a eu des visions. Il déclare, au cours de l'interrogatoire, qu'on peut sans scrupule tuer un tyran. Et nous retrouvons certainement l'exposé du père Blaise ce matin. Qu'on peut tuer un tyran et qu'Henri IV est réputé être tel. Il est réputé être tel parce qu'il ne voulait point, en aucune manière, déclarer la guerre aux Huguenots, ni les contraindre sur peine de la vie de croire aux vérités de la religion catholique. Alors, le sieur de Bellangreville, qui est grand prévôt de l'hôtel du roi, lui fait écraser les pouces avec un rouet d'arquebuse. Mais le traitement n'est pas efficace, et cela n'amène aucune révélation nouvelle quant à des complices. Le 15 mai, Bellangreville conduit Ravaillac à la conciergerie. Le 17, Ravaillac est interrogé par le premier président Achille de Harlay, le président Potier, les conseillers Courtin et Bauvin. Et au cours de cet interrogatoire, Ravaillac expose qu'il ne peut pas supporter la politique religieuse du roi. Il avait voulu être présenté au roi pour essayer de le convaincre d'être plus ferme vis-à-vis des protestants. Il s'est confié à un jésuite, le père d'Aubigny. Ce jésuite l'a exhorté à réciter le chapelet, à prier Dieu, en somme à se soumettre, et à s'adresser à un prince qu'il introduirait auprès du roi pour tenter de convaincre le roi. À Noël, il a essayé de voir le roi. À Pâques, l'idée du régicide lui est venue, et après avoir longtemps résisté à la tentation, il a attendu que la reine soit couronnée, cela prouve qu'il n'est pas fou. Personne ne l'a poussé à commettre son crime, dit-il, sinon des propos tenus par les soldats au terme desquels, si le roi faisait la guerre au Saint-Père, il partirait joyeusement et qu'il mourrait pour lui. C'est alors qu'il s'est persuadé qu'il fallait vraiment tuer le roi. Il faut tuer le roi parce que, je le cite, « faisant la guerre contre le pape, c'est l'affaire contre Dieu, d'autant que le pape est Dieu et Dieu est le pape ». Ravaillac affirme qu'il n'a pas eu de complice. Au cours de son récit, il nomme plusieurs personnes. Il nomme un écuyer de la reine Marguerite, les aumôniers du cardinal du Perron, un jésuite, un cordelier, un feuillant, le curé de Saint-Séverin, etc. Un seigneur du nom de la force, un marchand. Et parmi tous ces noms, il faut dire qu'on ne choisira que l'un d'entre eux pour l'interroger, le père d'Aubigny, jésuite. Car il y a indiscutablement une espèce d'hostilité aux jésuites du côté du Parlement, ça me semble évident. Pourquoi un seul témoignage et pourquoi celui du père d'Aubigny? En fait, le Parlement détestait le parti espagnol, mais le Parlement n'ignorait pas qu'avec la reine régente, c'était plutôt le parti espagnol qui maintenant était au pouvoir. Il devait faire la lumière sur le procès, comme l'exigeait l'opinion publique, mais il ne voulait pas non plus compromettre des personnages trop élevés. Et puis, les jésuites étaient détestés des parlementaires. Le président de Harlay avait longtemps résisté à l'enregistrement de l'édit de Rouen, qui autorisait le retour des jésuites. D'Aubigny, à qui Ravaillac avait parlé de ses visions, est interrogé par le premier président. Et D'Aubigny finit par répondre au président que si Dieu a donné aux uns le don des langues et aux autres le don de prophétie, il lui a donné la faculté à lui d'oublier les confessions. Au surplus, dit-il, nous sommes religieux qui ne savons ce que c'est que le monde qui ne nous mêlons et n'entendons rien à ses affaires. Et à cela, le président rétorque immédiatement, « Je trouve que vous en savez assez et ne vous en mêlez que trop. » Le mardi 18 mai, la cour assemblée délibère des questions et tortures qu'on pourrait appliquer à Ravaillac. La reine, qui témoignait par là de son amour conjugal, propose des supplices étrangers. Il y a toute une gamme intéressante venue d'Italie, montassé le bonhomme dans une espèce de cornet. Bon. Et elle fait savoir au commissaire, d'ailleurs, qu'il y a un boucher qui ne demande qu'à offrir ses services, un type intéressant, un boucher compétent, qui pourra écorcher Ravaillac tout vif et qui lui laissera suffisamment de force pour continuer à supporter cela pendant plusieurs heures. La cour, malgré tout, n'a pas jugé très opportun d'appliquer à Ravaillac des tortures différentes de celles auxquelles on avait habituellement recours. Le même jour, Ravaillac est interrogé en l'absence du premier président de Harlay, qui était indisposé et fatigué par tous ces exercices. Ravaillac maintient ses déclarations et il ajoute même autre chose. À Noël dernier, des protestants avaient entrepris de tuer tous les catholiques. Ils ont été faits prisonniers, ils n'ont pas été châtiés comme l'exigerait la loi. Ravaillac a déjà parlé, et le bruit courait, des craintes d'une nouvelle Saint-Barthélemy à l'envers. Cette idée courait dans le public. Elle courait dans le public, c'est une rumeur folle, certes, mais elle courait d'autant plus que le roi se préparait à faire la guerre aux puissances catholiques. Alors qu'on demande à Ravaillac s'il a été induit par quelqu'un d'autre que le diable, Ravaillac répond qu'il avouerait le nom de ses complices s'il en avait, pour ne pas offenser Dieu, pour ne pas laisser le roi, la reine, la cour, la noblesse et tout le peuple en inquiétude perpétuelle, soupçonnant injustement tantôt l'un, tantôt l'autre de leur sujet. Et cette réponse, vous voyez, n'est pas du tout celle d'un demi-fou, mais d'un personnage qui sait bien ce que c'est que le monde politique, après tout. Au cours de ce second interrogatoire, Ravaillac fond en larmes, supplie la Vierge d'intercéder en sa faveur, et il signe tout de même d'une main très sûre, il ajoute « Que toujours en mon cœur, Jésus soit le vainqueur ». Le 19 mai, dès le début de son interrogatoire, il affirme qu'il veut détromper tous ceux qui croient qu'il a eu des complices et qu'il a été, en quelque sorte, guidé vers ce régicide. D'ailleurs, si cela avait été le cas, ajoute-t-il, je n'aurais pas fait jusqu'à trois fois trois voyages exprès d'Angoulême à Paris, distants l'un de l'autre de 100 lieues, pour donner conseil au roi, ranger à l'Église catholique, apostolique et romaine ceux de la religion prétendue réformée. On l'interroge ensuite à propos d'un certain Dubois qui a couché dans le même grenier que lui à Limoges. On l'interroge à propos de ce Dubois. Ce Dubois aurait réveillé ses compagnons de chambre en criant, effrayé par la vision d'un grand chien noir au-dessus de son lit. Bon. Le 21 mai, on convoque le geôlier car il avait une déclaration à faire. Le prisonnier lui aurait dit que lors du départ du roi, il était dans la salle des laquais. Le geôlier s'enquérant qu'il lui avait fait faire, il dit « C'est un grand que je ne vous nommerai pas, mais à la cour demain ». Le 25 mai, on applique à Ravaillac la question préparatoire, ce qui est normalement un raffinement superflu, étant donné que la question préparatoire, c'est, si vous voulez, l'élément qui permet, par un aveu, de compléter un dossier déjà chargé. Il a tout avoué. C'est d'être donc parfaitement inutile de lui appliquer la question préparatoire. On lui applique tout de même la question préparatoire, ça ne nuit jamais, et ceci, je le répète, bien qu'il ait avoué son crime. Ce qui se passa à la question est sous le secret de la cour, dit le procès-verbal. Car la question n'est pas appliquée comme dans un commissariat avec quelques coups d'annuaire. Non, enfin, la question est appliquée en présence d'un aumônier, d'un médecin, de magistrats. Toutes les précautions sont prises. On rafistole l'individu immédiatement après. Donc, le 26 mai, c'est l'audition de 5 témoins. 4 d'entre eux sont des gardes qui ont procédé à l'arrestation de Ravaillac et qui viennent seulement reconnaître le meurtrier. Le 5e, c'est Pierre Dubois, dont je parlais tout à l'heure, et l'instruction est terminée. Le 27, Ravaillac est conduit devant la grande chambre du Parlement et il y entend à genoux la lecture de l'arrêt. La Cour a déclaré et déclare le dit Ravaillac dûment atteint et convaincu du crime de lèse-majesté divine et humaine au premier chef, pour le très méchant, très abominable et très détestable parricide commis sur la personne du feu roi Henri IV. Le prisonnier est condamné à toutes sortes de choses désagréables. Il est très inconfortable, indiscutablement, fait amende honorable devant Notre-Dame, conduit en place de grève où il sera tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes, la main dextre y tenant le couteau duquel il a commis le dit parricide, ardes et brûlés, de feu de soufre, et sur les endroits où il sera tenaillé, il sera jeté du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix résine brûlante et du soufre fondu ensemble. Ça, c'était une petite trouvaille, il faut le reconnaître, de Jacques de la Guelle. Jacques de la Guelle avait une animosité toute particulière contre le régicide depuis la mort d'Henri III. Ce fait, son corps sera tiré et démembré à quatre chevaux, ses membres et corps consommés au feu, réduits en cendres et jetés au vent, ses biens sont confisqués, sa maison natale sera démolie, on ne pourra plus reconstruire à cet endroit-là. Bien. Son père, sa mère devront vider le royaume avec défense d'y revenir sous peine d'être pendus. Ses frères et sœurs, oncles et autres se voient interdire de porter le nom de Ravaillac, qui d'ailleurs, je crois, n'est plus porté, hélas. Enfin, la question préalable lui sera appliquée pour qu'il révèle les noms de ses complices. La question préalable, c'est la question qu'on inflige aux condamnés classiquement. C'est d'ailleurs, je crois, la plus justifiée des questions. Il suffit simplement de la bien poser. C'est la question que l'on inflige aux condamnés immédiatement avant le supplice pour essayer de savoir s'il y a eu des complices. C'est des problèmes qui peuvent être extrêmement importants dans les temps contemporains. Enfin, nous sommes toujours dans l'actualité. En cas de dépôt de bombes ou de joyeuseté de ce genre, il est urgent de savoir quels sont les projets de ces excellentes gens. Donc, la question qui est préalable lui a été appliquée. Le procès-verbal de la question qu'il subit dans la chambre des buvettes révèle qu'interrogé sur l'identité de ses complices, Ravaillac répond encore « Je ne suis pas assez malheureux pour cacher quelque chose de ce genre, tandis que je suis pleinement persuadé que mon silence m'exclurait de la miséricorde divine dans laquelle je mets mon espérance. » Là-dessus, on lui enfonce deux coins entre les jambes, et au troisième coin, Ravaillac s'évanouit, il ne reprend connaissance que lorsqu'on lui jette de l'eau à la figure et qu'on lui fait boire du vin. Mais il ne peut rien avouer parce qu'effectivement, il n'a pas de complice. Au cours du supplice, il est assisté par les docteurs en Sorbonne, Filsac et Gamache. S'appelait Filsac, Sur le point de mourir, il demande l'absolution et cette absolution lui est refusée. Il la réclame alors dans les termes suivants « Donnez-la-moi qu'au cas que je vous ai protesté n'avoir pas de complice soit vrai. » C'est-à-dire « Donnez-moi l'absolution sous condition. » C'était une coutume l'absolution sous condition à cette époque-là et cette absolution sous condition lui est alors accordée. C'était une coutume, je vais y revenir tout à l'heure. Vous voyez là encore le souci d'infliger au coupable une peine exemplaire et manifeste. S'il y a un jour une réforme du code pénal, c'est dans ce sens-là qu'il faut intervenir, je le souligne. Une peine exemplaire, il s'agit de frapper les esprits. Il s'agit de frapper les esprits, tous les chroniqueurs parlent d'ailleurs de l'horreur du supplice. On a voulu que tout le monde connût le châtiment. Et c'est aussi pour cette raison qu'on détruit la maison du coupable. D'autre part, on s'est soucié d'infliger au meurtrier, cela aussi est intéressant pour connaître la justice d'Ancien Régime, le droit pénal d'Ancien Régime, on a voulu infliger au meurtrier des mutilations qui étaient caractéristiques du crime commis. De la même façon qu'on faisait bouillir les faux monnayeurs pour rappeler la fonte du métal, on fondait le faux monnayeur comme il avait fondu le métal, et bien de la même façon, on a brûlé la main droite de Ravaillac et coupé celle de Châtel, après avoir suspendu à leur poignet le couteau qui avait servi au crime. Ravaillac a sans doute agi seul, il y a eu toute une série de spéculations. Je n'insiste pas sur ce point, je pense que le père Blais vous en a parlé. En un mot, elles tiennent à ceci, on savait à l'étranger, semble-t-il, avant, Roland Mounier en parle, mais d'autres auteurs en parlent plus abondamment, on savait à l'étranger avant le crime qu'il allait être commis. Il est évident, il semble évident qu'il y ait eu en un mot d'autres complots, que beaucoup avaient des raisons de vouloir tuer Henri IV à ce moment-là, mais il est aussi évident qu'il n'avait pas recruté Ravaillac pour procéder à cette opération. Et il y a eu en somme, et ça arrive plusieurs fois dans l'histoire, il y aurait eu finalement des complots parallèles, et Ravaillac est celui qui a en quelque sorte eu la possibilité d'intervenir. Là, il y a toute une enquête policière amusante. Je pense que Decaux a dû d'ailleurs s'occuper de tout cela, mais il y a indiscutablement des éléments sérieux, traités par des historiens sérieux, ce qui exclut le personnage que je viens de citer, qui permettent de penser qu'effectivement, il y a eu plusieurs complots préparés pour des raisons dont nous allons parler. Explication de ces comportements. Châtel et Ravaillac appartenaient à des groupes sociaux très différents, nous le remarquons. Ravaillac, c'est un homme simple, sa famille avait été aisée, elle était honorablement connue, sa mère était de condition noble, elle descendait des Dubreuil de Fontreaux, son père était greffier du maire d'Angoulême, ce qui n'était pas déshonorant, cela jusqu'à l'attaque de la ville par les troupes d'Henri IV. Seulement, et là se produit un phénomène que les temps contemporains connaissent bien, le père d'Henri IV a été épuré, le père de Ravaillac a été épuré. Cela nous rappelle des souvenirs amusants. Il a été épuré en raison de ses choix politiques et religieux. C'est la révocation et c'est pour lui, c'est pour la famille, le commencement de la misère. Quant à Châtel, c'est un étudiant brillant, un fils de bourgeois riche parisien. Les conceptions de Châtel sont plus clairement exprimées que celles de Ravaillac. Les raisons de son acte sont malgré tout exactement celles qui ont poussé Ravaillac 16 ans plus tard. Un roi hérétique ou fauteur d'hérésie, ce n'est qu'un tyran, dont il s'agit de préciser la nature, une offense à Dieu, une offense aux lois traditionnelles du royaume, un danger pour le salut individuel des régnicoles. Et un pareil état de choses ne peut que conduire à des catastrophes abominables. La guerre, par exemple, la guerre contre les puissances catholiques. Cette guerre qu'Henri IV se prépare à faire en 1610. Quels éléments permettaient aux catholiques de tenir de pareils raisonnements? Ben d'abord, il y a, et je reviens peut-être fugitivement sur ce qui vous avait été dit ce matin, il y a, bien sûr, les circonstances mêmes de l'accession d'Henri IV au pouvoir. En 1593, Henri de Navarre a échoué devant Paris, les grandes villes sont toujours ligueuses et il y a une espèce de hiérarchie parallèle qui s'est installée dans tout le royaume, hiérarchie parallèle qui est celle de la Ligue. Car ne perdons pas de vue, je sais que la Ligue a été présentée comme une espèce de minuscule parti politique à l'égard du Parti radical socialiste ou d'autres choses. Non, la Ligue, ne nous y trompons pas, c'est tout de même à peu près 90% des Français. C'est très facile de dire que les États de 1588 sont les États de la Ligue. Non, ce sont les États de France, et ces États de France sont catholiques parce que la France est catholique, tout bonnement. C'est évidemment difficile à avaler aujourd'hui, mais c'est un fait. Donc, Henri de Navarre, en 1593, éprouve des difficultés et il ne remporte pas de succès militaire. C'est souvent un tremplin pour des hommes politiques de faire la guerre à des Français. C'est plus facile que de la faire à des étrangers. Mais malgré tout, il faut reconnaître qu'il ne remporte pas de succès écrasant à ce moment-là contre les catholiques. Alors, il décide d'abjurer le protestantisme. Le 25 juillet 1593, à Saint-Denis, il reconnaît que l'Église catholique, apostolique et romaine est la véritable Église de Dieu. Il y a là toute une série d'évêques. Il y a l'archevêque de Rouen, l'archevêque de Bourges, surtout Renaud de Beaune. Il y a l'évêque de C, etc. Il y a Renaud de Beaune. Renaud de Beaune est un expert en intrigues politiques, en fait, il ne faut pas s'y tromper. C'est un ancien fidèle du duc d'Alençon. Il a eu une carrière politique, Renaud de Beaune, plus que sacerdotale. Henri IV abjure donc. Il abjure toute doctrine contraire au catholicisme. Il déclare qu'il mourra en catholique. Ça rappelle certains souvenirs aux gens qui sont là, puisqu'Henri III en avait fait autant quelque temps avant d'assassiner le duc de Guise. L'archevêque de Bourges lui donne l'absolution et le relève, on ne sait pas pourquoi, de l'excommunication prononcée par Sixte Quint. Et ça, il y a eu un effet psychologique de cette mesure. Il y a eu un effet psychologique sur les catholiques français, un effet spectaculaire, mais il a été fugitif, cet effet. Il y a des quantités de Français qui pensent d'abord qu'une excommunication prononcée par le pape ne peut être levée que par le pape. Et puis Grégoire XIV avait, par un monitoire, bien indiqué que ces évêques eux-mêmes, le père Blais vous en a parlé, je pense, que ces évêques eux-mêmes, fidèles à Henri IV, étaient excommuniés aussi. Donc, on voit mal des évêques excommuniés donner l'absolution d'une excommunication prononcée par un autre. Enfin, ça semble, sans être canoniste, quelque chose d'un peu extravagant. Et les catholiques finissent par le remarquer. Est-ce que ces gens-là pouvaient relever le roi d'une excommunication? D'autre part, la conversion d'Henri IV elle-même était sujette à caution, car tout de même, c'était la cinquième fois qu'il passait d'une religion à l'autre. Ça prouve qu'il s'y intéresse, je veux bien, mais tout de même. C'était la cinquième fois, il y avait des raisons politiques très sérieuses qui tout de même coïncidaient avec cette brusque flambée de foi catholique. Le repentir, d'autre part, doit se prouver. Or, Henri IV s'est contenté d'aller à la messe et de faire un signe de croix. Bon, c'est déjà un geste, il faut lui en savoir gré, mais c'est petit quant aux marques de repentir. C'est tout petit, disons-le. Il reste parfaitement fidèle à ses alliances avec les hérétiques étrangers. Il y a là-dedans un pays aussi tolérant que l'Angleterre d'Élisabeth. Il donne les plus hautes charges à des hérétiques, selon le roi, le procédé utilisé d'ailleurs par les protestants anglais au même moment. Il y a un protestant, Bouillon, qui est devenu maréchal de France. Le choix d'ailleurs n'était pas excellent, Le conseil est rempli d'hérétiques purs, de calvinistes, Bouillon, Duplessis Mornay, Sancy. Quant à Schomberg, il est luthérien. Il est au conseil aussi. C'est tout de même beaucoup pour un roi catholique qui veut prouver son enthousiasme catholique. Il ne fait rien pour rétablir le culte catholique en Béarn. Il persécute les catholiques en établissant justement comme une espèce de patriarche, de chef de l'église gallicane, Renaud de Beaune. C'est Renaud de Beaune, intrigant politique, qui nomme aux bénéfices ecclésiastiques et qui nomme qui amuse Henri IV, qui soutiendra Henri IV. Henri IV a-t-il vraiment changé de religion? Est-ce qu'il ne ressemble pas, et c'est ce qui vous a certainement été dit ce matin, à un tyran d'usurpation et pas seulement d'exercice? Un tyran d'usurpation, comme l'a montré Roland Mounier en étudiant le commentaire des quatre livres de sentence de Pierre Lombard de saint Thomas d'Aquin. On a le droit de tuer un tyran d'usurpation. Mariana l'a enseigné dans le De Rege et Regis Institutionné. Mariana n'est pas un pamphlétaire, Mariana est un théologien. Enseigner Mariana, mes étudiants de doctorat autrefois, je vous assure que ce n'est pas du tout un pamphlétaire. Pierre Châtel connaissait cet enseignement. L'enseignement de Pierre Châtel s'explique. Beaucoup de catholiques partagent donc cette façon de voir. De 1594 à 1610, malgré les apparences, l'attitude royale ne change pas. L'attitude royale ne change pas, elle est bourrée d'équivoques. D'abord, la situation religieuse ne s'améliore pas vraiment. Dès la fin de l'année 1593, il avait été entrepris des démarches auprès du pape Clément VIII, nouveau pape, pour obtenir l'absolution. Mais cette absolution comportait trois points, absolution sacramentelle, absolution canonique, réhabilitation, comme successeur du trône. Le premier point qui était difficile, car les canons sur les relapses, et Henri IV est un hérétique relapse, ces canons réclament des témoignages indiscutables de sincérité. Or, le pape peut craindre que l'abjuration d'Henri IV n'ait pas d'autre but que celui de devenir roi de France. On peut l'imaginer, surtout quand c'est la cinquième abjuration, le cinquième changement de religion. Henri IV ne fait rien pour réparer les dommages causés à l'Église. Le pape craint donc qu'une fois maître du royaume, maître des places fortes, Henri ne revienne au calvinisme. Sans avoir obtenu l'absolution pontificale, Henri IV, malgré tout, et c'est là notre quadricentenaire, Henri IV se fait sacrer à Chartres le 27 février 1594. Le 20 mars, il déclare vouloir vivre et mourir dans la religion catholique. Le 22, on lui ouvre subrepticement une porte de Paris et il rentre dans la ville. Beaucoup de membres du clergé et de fidèles, malgré tout, refusent de prier pour le roi. Finalement, sous la pression des jésuites, en septembre 1595, Clément VIII donne son absolution à Henri IV, après avoir déclaré nulle d'ailleurs l'absolution de Saint-Denis. Mais il est à noter que des conditions très strictes sont mises à cette absolution. Des conditions très, très strictes. Henri IV doit rétablir l'unité de religion, publier le Concile de Trente, appliquer le Concordat de 1516 strictement, protéger le clergé, comme on a l'habitude de le jurer au sacre, lui faire restituer ses biens. Il doit renoncer à attribuer des bénéfices ecclésiastiques à des hérétiques. C'est tout de même le moins qu'on puisse demander. Il doit rétablir le catholicisme en Béarn, ériger dans chaque province du royaume un monastère, se confesser et communier au moins 4 fois par an, observer les jeûnes de l'Église, dire le chapelet tous les jours s'il n'y a pas d'impossibilité majeure. Inutile de dire qu'en 1610, lorsque Ravaillac se retourne, comme beaucoup de catholiques, il ne peut que constater que le roi n'a pas vraiment rempli les conditions de l'absolution. Au contraire, le roi a signé l'édit de Nantes. Il a signé l'édit de Nantes, et en signant l'édit de Nantes, il a installé l'hérésie dans le royaume. Car cet acte ne se contentait pas de donner la liberté aux réformés. Il les organisait, en fait, en état dans l'état. D'autre part, imaginez ce qui se serait passé si, au lendemain des guerres de Vendée, les royalistes avaient obtenu à Nantes, Rennes, Poitiers, Caen l'établissement de tribunaux composés pour moitié de blancs et pour moitié de républicains. On peut imaginer que les républicains aient protesté. Je ne crois pas m'aventurer en hasardant cette hypothèse. L'article 30 de l'édit de Nantes établissait des chambres mi-parties à Grenoble, Bordeaux, etc. Au Parlement de Paris, les protestants avaient des représentants attitrés. Une chambre était spécialement établie pour juger leur cause. Donc on créait une juridiction spéciale pour les procès que les protestants avaient entre eux ou qu'ils avaient avec des catholiques. Tandis que les catholiques étaient beaucoup plus nombreux que les protestants, un rapport de 9 à 1, de 10 à 1, les tribunaux étaient composés pour moitié de protestants et de catholiques. C'est tout de même étrange. Ça n'était pas une liberté, c'était une faveur. Des faveurs comparables étaient données aussi aux protestants dans le domaine de l'éducation et dans celui de l'assistance. Par l'article 57 et par l'article 22, les catholiques étaient tenus de recevoir dans les hôpitaux qu'ils entretenaient, que leur clergé entretenait, des protestants. Les protestants, en revanche, avaient, eux, pour eux seuls, des collèges, des universités, des écoles. Le point est important, car il y a des régions où n'existait qu'une école protestante. Les catholiques avaient le droit de rester idiots, en somme. De plus, les protestants pouvaient profiter au même titre que les catholiques des universités et des collèges qui étaient entretenus par les catholiques. Vous voyez que le traitement appliqué aux uns et aux autres n'était pas égal. Les protestants recevaient un traitement particulier. Quelle était la situation des catholiques anglais en même temps, à la même époque? Je vous laisse vous interroger et vous pencher sur la question. Enfin, l'un des articles de l'édit stipulait que toutes les places, villes ou châteaux occupés en 1597 par les réformés demeureraient entre leurs mains. On en ajoute d'autres, si bien que les Huguenots ont eu 150 places fortes qui faisaient d'eux, en face de la monarchie française, un État solidement fortifié. Les assemblées religieuses des protestants étaient autorisées, mais les assemblées politiques ne l'étaient pas. Et cette prescription a été superbement ignorée par les catholiques, par les calvinistes. Ils ont eu une assemblée de Châtellerault qui était réunie quand l'édit a été signé. Elle s'est poursuivie après la première.